d'Europe. C'est là celui qui possède l'armée la plus puissante d'Europe, concurrencée par celle de la Prusse, mais elle est plus puissante à ce moment-là encore que la Prusse. Et elle va le prouver. Alors, si ce pays est puissant, il est dirigé par une monarchie. En effet, la notion de république n'existe pas encore. On peut se demander que veut dire le mot république. Le mot république, aujourd'hui, c'est le contraire de monarchie. C'est-à-dire, c'est un régime de gouvernement où le pouvoir et ses représentants sont élus. Contrairement à la monarchie, où le roi, qui représente le pays, est souvent héréditaire et qui n'est pas le résultat d'une élection. Ce n'est pas le synonyme de démocratie. La démocratie, c'est un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions, ne serait-ce que par les élections. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le Royaume d'Angleterre est classé parmi les démocraties, puisqu'il y a des votes. Mais c'est une monarchie. Donc, en réalité, le sens du mot a évolué. Étymologiquement, ça nous vient d'un mot romain, la res publica, qui veut dire la chose publique, la chose commune. En Grèce, la chose commune, on parlait de république, mais en réalité, cette démocratie grecque était réservée à une élite. On cite souvent la démocratie athénienne comme la première démocratie ou république, mais en réalité, étaient exclues de l'exercice du pouvoir toutes les femmes, tous les esclaves, tous ceux qui n'étaient pas soldats, c'est-à-dire les artisans, les marchands, et même parmi ceux qui avaient le droit d'exercer le droit de vote, les pauvres, qui étaient obligés de travailler, ne pouvaient pas se rendre aux assemblées, donc n'exerçaient pas le droit de citoyen. Et en réalité, à Athènes, il n'y avait qu'une personne sur 10 seulement qui pouvait exercer des droits civiques. Donc, dans l'Antiquité, la République est exercée par une minorité, c'est un groupe, on dit une oligarchie, un petit groupe de personnes qui sont censées représenter le peuple. En France, au Moyen-Âge, c'est la vision religieuse qui va dominer. Il n'est pas question de laisser aux gens le pouvoir de décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent, mais on va se coller à l'image idéale du royaume chrétien. C'est la cité de Dieu qui est le modèle politique. Et il n'est pas question là d'exercer un pouvoir de citoyen, un pouvoir de décision pour le peuple. C'est à partir du XVIe siècle que la notion d'État va se séparer vraiment de l'idée religieuse, que va émerger d'ailleurs les États modernes, la France, l'Angleterre, etc., et qui vont se séparer petit à petit du pouvoir religieux. Et c'est surtout au XVIIIe siècle, avec les philosophes, que va émerger toute une philosophie du pouvoir séparée de la religion, et qui réclame une partie de décision pour le peuple. Deux philosophes vont compter à ce moment-là, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. D'abord Rousseau, qui va écrire le contrat social, et Montesquieu, qui va écrire l'esprit des lois. Montesquieu, c'est le premier qui va dire « le pouvoir doit être séparé ». Le pouvoir, quand il est analysé, il y a le pouvoir de justice, le pouvoir de faire des lois et le pouvoir d'exercer, le pouvoir de l'armée pour faire respecter les lois. Ces trois pouvoirs, dit Montesquieu, doivent être séparés. Ils ne doivent plus être réunis dans une seule personne. Et quant à Rousseau, il dit qu'il s'intéresse à l'organisation de la société et c'est un des premiers qui dit que la propriété privée est à l'origine de l'inégalité des richesses. Et ces deux penseurs vont influencer toute une série de personnes qui sont cultivées, instruites, et qui vont être à l'origine de la Révolution française. Donc la Révolution française naît dans un pays développé, avec des penseurs, une bourgeoisie qui est cultivée, qui connaît toutes ces avancées dans la pensée politique, mais c'est un pays qui est bloqué. Il est bloqué parce que la société de 1789 est divisée en trois classes dans lesquelles on ne peut pas bouger. On est dans la classe, par exemple, des nobles et des dirigeants politiques qui tiennent l'armée et le pouvoir politique, où on est dans la classe bourgeoise, qui est celle des activités économiques non paysannes et qui tient aussi l'administration, mais qui ne peut pas accéder aux plus hautes fonctions, c'est réservé aux nobles. Où on est paysan. Donc trois classes, il y a aussi une troisième classe qui est la classe religieuse. Donc le clergé, la noblesse, le tiers-état, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans le clergé ni nobles, et qui a une partie qui est plutôt riche et instruite, formée de bourgeois, et puis les pauvres, la masse, hein, la masse qui fait à l'époque 90% de la population de paysans et de travailleurs pauvres. Et cette société est bloquée. Est bloquée parce que c'est le début du capitalisme. Et pour se développer, les structures anciennes qui sont fondées sur la paysannerie, sur la possession de la terre par les nobles, bloquent tout développement. Et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'endettement de l'État. Vous remarquez que ce sont des situations qui vont se renouveler. Hein, l'endettement de l'État. Et en effet, le roi a beaucoup de dépenses. Il fait la guerre. La cour coûte cher, hein, tous ces nobles qu'il a réunis et auxquels il accorde beaucoup de privilèges, de pensions, et puis qui ont un train de vie à Versailles très coûteux. Tout cela fait que l'État est très endetté et que le roi, Louis XVI à l'époque, a l'idée qu'il pense ingénieuse de réunir des anciennes assemblées des provinces de l'époque, qu'on appelait les états généraux. Il veut les réunir pour qu'ils votent des crédits, pour qu'ils puissent continuer à dépenser. Mais il va y avoir un malentendu. Le peuple, lui, quand on a convoqué ces états généraux qui n'étaient plus convoqués depuis très longtemps, depuis Louis XIV, va penser que le roi va écouter les demandes du peuple. Et le peuple va rédiger ce qu'on a appelé les cahiers de doléances. Et il va dire toutes les injustices qu'il vit, toutes les demandes d'évolution pour que les impôts soient moins lourds, pour qu'il y ait plus de liberté pour entreprendre, etc. Et c'est sur ce malentendu qu'ils sont convoqués. Et quand le roi voit les gens qui ont été élus ne vont pas voter ces crédits, mais veulent une évolution, il va vouloir les renvoyer. C'est le début de la Révolution. Et ça va aboutir à la déclaration de la République le 21 septembre 1792. Je saute bien sûr beaucoup d'étapes. Hein. Le but n'est pas de vous refaire toute l'histoire de la Révolution, mais de montrer que des situations de blocage explosifs et des dirigeants qui ne comprennent pas les changements qui doivent être opérés font que la Révolution éclate. Cette Révolution, cette République qui va naître, va avoir beaucoup d'ennemis. Elle va avoir des ennemis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, parce que les partis du roi vont beaucoup compléter. Ils vont avoir des soulèvements, comme les Chouans, par exemple, en Bretagne, en Vendée. Mais aussi des ennemis à l'extérieur, parce que toute l'Europe de l'époque est formée de monarchies, essentiellement. Et ces monarchies sont alliées à la famille royale de France et ne veulent pas qu'une république s'installe. Donc, elles vont se coaliser, faire la guerre à la France. Et le roi va s'allier avec eux, ce qui fait que les révolutionnaires vont considérer qu'il a trahi et les républicains vont prendre les armes contre cette coalition européenne et vont gagner. C'est la fameuse bataille de Valmy qui est faite par des sans-culottes. Les sans-culottes, c'est le peuple qui a soutenu cette révolution. Si cette révolution a été possible, c'est parce qu'il y a eu à la fois la révolte des bourgeois instruits qui voulaient un autre régime plus libéral et accéder à des emplois pour lesquels ils étaient qualifiés, mais il y a eu aussi la demande du peuple qu'on appelait des sans-culottes. Ils n'avaient pas les habits des bourgeois, c'est pour ça qu'on les appelait des sans-culottes. Et cette conjonction, donc l'armée républicaine va vaincre cette coalition de monarchistes. Alors c'est bien dommage que nous ayons ces ennuis techniques, parce que je vous aurais passé à ce moment-là la Marseillaise. Pourquoi la Marseillaise ? Ce n'est pas... La Marseillaise a connu une grande histoire. À ce moment, elle est écrite... c'est un chant de guerre, de défense. Elle est écrite, elle est chantée par les Marseillais quand ils montent soutenir la révolution pour la prise des Tuileries. Et ensuite, l'armée républicaine va affronter la coalition européenne, les Prussiens, les Autrichiens qui attaquent la France. Et ils chantent la Marseillaise. Dans la Marseillaise, telle qu'elle est chantée au début, ils disent bien que ce n'est pas... Parce que certains la contestent, mais c'est un chant de défense. Les Prussiens viennent en France pour soumettre le pays, rétablir la royauté. C'est pour ça qu'il dit « contre nous de la tyrannie ». Ils disent bien que c'est contre ceux qui viennent égorger leurs fils et leurs compagnes. Et ils disent aussi que c'est contre les tyrans. Si on lit entièrement les couplets, ils disent « Tremblez, tyrans, et vous, perfides, tremblez ». Il dit « Français, en guerrier magnanime, portons ou retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous ». Ce paragraphe veut dire qu'ils n'en veulent pas aux soldats eux-mêmes qui les attaquent, ils ne veulent pas les tuer. Ils veulent combattre pour se défendre, pour défendre la République. Donc, à ce moment de notre histoire, la Marseillaise est un chant républicain qui va être interdit plus tard, quand la monarchie va revenir, quand l'Empire va revenir, va être établi, le premier puis le second, les gens qui chanteront la Marseillaise seront emprisonnés. Donc, ce n'est pas un chant nationaliste à cette époque, c'est un chant pour défendre la République. Cette République, je vous ai dit, elle a des ennemis extérieurs, mais elle a aussi des ennemis intérieurs. Elle est fragile. Elle est fragile parce que nous avons vu que le tiers-État, le Parti populaire qui va prendre le pouvoir et proclamer cette République, il y a deux parties. Il y a une partie bourgeoise et il y a une partie très populaire, une partie plus radicale pour se défendre contre le complot, les ennemis de l'intérieur. Le parti radical va justement être de plus en plus ferme, prendre des mesures de plus en plus dures, parce qu'on a affaire à une violente réaction. Même à Marseille, ça se passe comme ça, d'ailleurs. Et Marseille qui va voter la déchéance du roi. Donc, à un moment donné, il va s'instaurer, on va prendre des mesures telles qu'elles vont apparaître comme une dictature. À un moment donné, à partir de 1793, va s'installer un pouvoir dit conventionnel et qui va lui vouloir une redistribution des richesses. La Convention va vouloir qu'il y ait un partage des richesses, que la spéculation sur les prix des grains, à l'époque c'est le pain est la base de la nourriture, soit réglementée, que les terres soient de ces grands seigneurs soient redistribuées et que le clergé rende à l'État ses possessions pour qu'il le mette au service du peuple. Évidemment, cela va être combattu, il va y avoir des excès. Mais ces excès, sont explicables par la situation. Ce ne sont pas... Et Robespierre, qui va mener ce mouvement, hein, va aboutir à un mouvement qu'on va appeler la terreur, puisqu'on va emprisonner, exécuter des gens qui sont considérés comme des traîtres, parce que soupçonnés d'avoir des relations avec les puissances ennemies qui cherchent à détruire la République, et avec les royalistes qui fomentent des complots. Et la situation va être telle que cette terreur va elle-même, une partie des républicains va mettre fin à cette terreur. Robespierre va être lui-même exécuté. Et tous ceux qui ont fait partie de ce parti, qui avaient soutenu Robespierre, qu'on appelait des Jacobins, vont être eux-mêmes persécutés. Il va y avoir... une autre terreur qu'on va appeler la terreur blanche et qui elle aussi va faire des victimes à Marseille en 1795. On va massacrer ces républicains sociaux, on va dire. C'est un mot qu'on n'utilise pas encore, hein, mais c'est ceux qui voulaient cette révolution sociale, on dirait aujourd'hui. Ces Jacobins qui sont emprisonnés au fort Saint-Jean. Une centaine, on va les massacrer. On va massacrer d'autres Jacobins qui se trouvent à Aix aussi. Et cette République, en réaction, on va donner le pouvoir d'armée à des royalistes. C'est un comble. Et on va finir par appeler un homme fort pour défendre la République, cette République plus bourgeoise, qu'on va appeler République thermidorienne. On va appeler Napoléon, le général Napoléon Bonaparte. Et en fait... ce général va finir par lui-même prendre le pouvoir pour lui-même et instaurer l'Empire en 1904. À partir de 1904 et jusqu'en 1815, il va instaurer son pouvoir personnel. Donc, si on fait le bilan, une France qui est bloquée, qui provoque une révolution, cette révolution a beaucoup d'ennemis à l'intérieur, à l'extérieur. La situation extrême et l'excès de réaction des deux côtés font qu'on aboutit, malgré des efforts et une œuvre qu'on va voir aussi considérable, à remettre le pouvoir à un despote, à quelqu'un qui va se déclarer empereur. Malgré tout, dans ce laps de temps, entre 1789 et 1815, eh bien, on aura eu beaucoup de choses réalisées. On aura eu le système métrique, on aura eu les départements, on aura eu toute une réorganisation de la France, on aura eu le franc, on aura eu un nouveau code civil, etc., etc. Parce que Napoléon Bonaparte va faire cela avant de se déclarer empereur, hein. Même le franc, hein, le franc qu'on a connu, qui va durer plus d'un siècle, sera créé à ce moment-là. Voilà, on est encore dans l'héritage de cette première république qui n'a pas pu durer et qui a abouti, qui a été dévoyée, qui a abouti à un pouvoir personnel. On va peut-être passer un petit morceau de musique.
Oui, je vais passer un morceau de musique, quelque chose qui va te faire plaisir, si toutefois on peut l'envoyer, voilà. Alors, il y a un petit souci technique, c'est une excuse. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, décidément, ce moment, ça ne va pas. Bon, un peu de musique quand même, allez-y.
Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
Voilà donc la chanson révolutionnaire par excellence, hein, donc, qui a été créée en 1790 et qui exprime à la fois la colère devant ces blocages dont on parlait, mais aussi ce désir de participer à l'élaboration de la loi. Hein. Il dit c'est le peuple qui font la loi, et c'est vrai que dans la République, c'est la souveraineté donnée au peuple. C'est le peuple qui doit, par les élections, et qui va donc reprendre le pouvoir. Alors malheureusement, Napoléon, en perdant la guerre, va laisser la coalition européenne anti-républicaine ramener au pouvoir les exilés royalistes, et les nations européennes vont aider les rois à revenir pendant une première moitié du XIXe siècle. D'abord Louis-Philippe, le frère de Louis XVI, qui était un homme intelligent et qui a essayé d'apaiser les choses, il est revenu et il a accordé une constitution, et il s'est finalement assez bien débrouillé pendant quelques années. Mais à sa mort, son successeur, Charles X, va être au contraire très réactionnaire. S'appuyer sur l'Église catholique, sur la partie les plus rétrograde, et par des mesures injustes, va provoquer une révolte en 1830. C'est le deuxième essai d'une république. Et pendant trois jours, qu'on a appelé les Trois Glorieuses, une émeute parisienne va essayer... va donner un grand espoir aux républicains et va essayer de rétablir la République. Ces émeutes, pendant trois jours, malheureusement, vont déboucher sur le retour d'une autre forme de monarchie, plus libérale, Et c'est le roi Louis-Philippe, un cousin de la branche cadette des rois au pouvoir, qui va prendre le pouvoir, qui va s'assurer de l'aide des modérés et qui va garder 18 ans de nouveau le pouvoir. Donc déception pour les républicains. Beaucoup de gens vont être d'ailleurs emprisonnés. Il va y avoir 800 morts en 3 jours du côté des émeutiers et quelques 25 000 arrestations. D'ailleurs, les idées républicaines vont quand même progresser. Et ce même roi Louis-Philippe, en 1848, va lui-même être contesté à tel point qu'il va y avoir une troisième révolte. Et cette révolte-là, elle va aboutir. Elle va aboutir à une deuxième république. Cette deuxième république ne va pas vivre longtemps. Elle est déclarée le 22 février 1848. Elle aussi, elle est porteuse d'un grand espoir. Et elle va notamment mener au pouvoir. Elle est le résultat du progrès des idées républicaines dans certains clubs. Les gens qui réfléchissaient aux idées nouvelles se réunissaient dans des clubs et ils organisaient des banquets, puisque il y avait interdiction de manifester. Et ces personnes-là vont essayer d'amener plus de justice sociale. Et il y a une nouvelle notion qui émerge, puisque la classe ouvrière est en train de se former, c'est le droit au travail. La Deuxième République, par exemple, va faire une application des idées de Louis Blanc, qui était le droit au travail, et va ouvrir des ateliers nationaux. Louis Blanc dit « L'État doit se préoccuper de donner du travail aux gens ». Alors, il l'explique d'une manière, on va pas vraiment appliquer ces idées, on va simplement organiser de grands chantiers dire aux chômeurs qu'ils peuvent y aller. Il va y avoir des chantiers à Marseille, notamment les premiers aménagements de la corniche, par exemple. Mais ça va être un échec parce qu'il y a trop de chômeurs, ils sont mal payés, ces travaux sont mal organisés, mal financés. On va les fermer. Et au moment où on va les fermer, c'est la fin de cet espoir de république sociale. Il va y avoir des révoltes. On va faire appel de nouveau à un homme fort qui est un neveu de Napoléon Ier, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Et qui, comme son oncle, lui aussi, au bout d'un certain temps, va imposer son pouvoir personnel par un coup d'État en 1851. Et de nouveau, on a le même échec. On a une république qui avait commencé à réaliser des espoirs. Elle avait donné, par exemple, le droit de vote aux esclaves, le droit de vote à tous, et pas aux femmes encore. Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour les femmes. Mais en 1945, mais elle avait donné de grandes avancées, de grands espoirs, mais très vite, elle va être elle aussi détournée par une classe de bourgeois libéraux qui vont s'allier à la fois au parti bonapartiste pour instaurer un système autoritaire très, très dur dans lequel, de nouveau, un seul homme a tous les pouvoirs, Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, ce Napoléon Bonaparte avait quand même une qualité, c'est qu'il voulait un développement économique. Il va moderniser la France. Le capitalisme va se développer, mais il va se développer de façon très injuste, basée notamment sur deux injustices. D'une part, les matières premières sous-payées aux paysans et sous-payées aux coloniaux. C'est le début de l'expansion coloniale française, où on va chercher des matières premières pour pas cher, et ça va durer d'ailleurs très longtemps. Et la deuxième injustice, c'est le travail des gens, le travail des ouvriers, de cette classe ouvrière, et qui fait qu'il va avoir de grands enrichissements personnels à côté d'une grande misère. Et de nouveau, un blocage à la fin de cet empire, même si quelques progrès sont faits, il va accorder quelques libertés à la fin de cet empire, mais pas assez, parce que il va déclarer, et là aussi on va se retrouver dans une situation qui va ressembler un petit peu à la Révolution française de 1789, il va déclarer la guerre à la Prusse. Et de nouveau, on a des ennemis extérieurs. Hein. La Prusse est alliée aux Allemands et elle est, c'est un empire. C'est un empire, et elle est alliée aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, encore à la Russie. C'est-à-dire que ce sont des États où il n'y a pas de république. Hein. Donc, le problème de Napoléon III, c'est qu'il va perdre cette guerre. Et quand il le perd, les républicains qui étaient en train de se reconstituer, qui étaient depuis 1869, qui comptaient quelques élus à ce qui va devenir plus tard l'Assemblée nationale, qui s'appelait alors à l'époque le corps législatif, qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais qui viennent, ces républicains vont déclarer la République. À Marseille, par exemple, les Marseillais avaient déjà, c'était encore l'Empire, les deux députés marseillais étaient des républicains, c'était Gambetta et Alphonse Esquiros. Eh bien, ces députés vont déclarer la République. Et cette République va refuser dans un premier temps la défaite, puisque l'empereur perd la guerre, il est fait prisonnier. En 1870, le 3 septembre, et dès le 4 septembre, la République est déclarée. Et cette fois, il y a une assise populaire. Ça fait 80 ans que les esprits sont préparés à l'idée de justice sociale, à l'idée de citoyenneté, à l'idée que le peuple doit participer à l'élaboration des lois. Et cette fois, la République va s'installer définitivement. Alors, comme en 1789, cette République va avoir un double problème. L'ennemi extérieur, qui est la Prusse, qui est là, qui voudrait bien rétablir un régime, que les Français établissent un régime autoritaire. Et l'ennemi intérieur, qui est qu'une partie de ceux qui ont fait cette République ne veulent absolument pas une justice sociale. Ils ne veulent pas une République sociale. Ils veulent simplement une république libérale où le capitalisme puisse continuer sans frein, avec des classes très très pauvres et d'autres et des profiteurs qui spéculent. Alors évidemment, il va y avoir des révoltes. Ça sera le sujet d'une autre émission. Mais voilà résumé. Hein. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que les idées vraiment essentielles, vraiment importantes, mettent du temps. Et il ne faut pas désespérer. Les idées de justice de ces premiers républicains, parce qu'en 1870, on verra que cette République sociale voulait l'égalité pour tous, le droit de vote pour tous, l'impôt sur le revenu. Elle voulait aussi l'enseignement, une école pour tous, une école laïque. Toutes ces notions qui semblaient folles à l'époque, aujourd'hui, elles sont là. Elles sont d'ailleurs à défendre de nouveau. Mais les idées, les changements de mentalité sont plus longs que les événements du moment. Et c'est pour ça que la prochaine fois, je vous parlerai d'un personnage qui a vécu ces changements de 1870, puisque nous serons en mars et qu'il y aura la journée de la femme. Donc, je vous parlerai de Louise Michel. Louise Michel, son long combat pour la justice. Ce sera, nous nous reverrons le 9 mars. Voilà. En attendant, avant de nous séparer, je vais vous passer un chant, si la technique nous le permet, oui, je pense. C'est un chant qui symbolise le l'essai de République sociale qu'on a appelé la Commune de Paris, la Commune de Marseille, la Commune de Lyon, dont nous parlerons plus tard, mais qui a donné un chant très beau, un chant d'espoir, et qui malheureusement, puisqu'il a été déçu, est restée dans certaines chansons. Une des chansons qui le symbolise s'appelle « Le drapeau rouge ». Donc, on va vous le passer.
Voilà, dans un petit instant, là, s'il vous plaît. En espérant que cela fonctionne correctement, sinon nous passerons à autre chose. Bon, décidément, ça ne veut pas répondre, ce n'est pas grave.
Si, c'est un petit peu long, c'est tout.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes et fois. Emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, le voilà, regardez, confiant et fier de ton épouse, c'est comme lui au combat préparé. Osez, osez le défier, notre super de drapeau rouge, rouge puissant de l'ouvrier, rouge puissant de l'ouvrier.
Mais planté sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est compris au combat préparé.
Commune, il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons.
Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est compris au combat préparé.
L'étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur.
Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est le prix au combat préparé.
Voilà, voilà, eh bien, Chantal, ben, tu es la plus forte, tout simplement, voilà, il n'y a rien à dire. Bien, nous continuons l'émission, hein, quoi qu'il est, 3h25, nous allons à présent rendre l'antenne et laisser la place à notre ami Ernesto pour son émission En avant la musique. Allez, nous vous souhaitons une très bonne après-midi et nous vous disons à très bientôt, au revoir. Et un peu de musique avant, et le générique dans un petit instant.
Chose qui vient spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue,
Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons. Elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verts et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins. Elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles, elle est pleine de jolies filles. Aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monokini, dénudes le corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants brancheurs. Lopatop, ghetto blaster, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de volley et puis des concours de